Préface d'Arnaud Desjardins. J'ai entendu parfois évoquer Graf Karl Fried von Durkheim, le sage de la forêt noire, comme le gourou en complet veston et cravate. Pour moi, l'image qui s'associe à celle d'André Rochette, c'est le bleu de travail. André Rochette est par excellence ce qu'un certain vocabulaire désigne comme un homme du peuple ou un travailleur. S'il n'a pas fait d'études poussées, il a exercé en revanche un certain nombre de métiers on ne peut plus incarner dans le concret. Depuis artisan électricien, taxi, cultivateur de champignons jusqu'à cuisinier dans un restaurant et propriétaire d'un petit hôtel au cœur de Lyon. Et pourtant, on peut dire de lui que, à sa façon, il est et il a toujours été un mystique. Quand je l'ai rencontré la première fois, il y a plus de 30 ans, il consacrait le plus clair de ses rares loisirs à animer des réunions de prière pour aider des malades. Participant avec ferveur au premier petit groupe qui s'était réuni au Bost, en Auvergne, au nom de l'enseignement que j'avais moi-même reçu du maître bengali Swami Prajnampad, il n'a pas tardé à nous rejoindre à temps plein et à mettre sa polyvalence au service de notre petit ashram, si je puis employer en France ce terme hindou. Tout ce que j'étais en mesure de partager de ce que j'avais trouvé en Asie, André Rochette l'a assimilé avec passion et mis en pratique avec acharnement. À travers ses doutes, ses révoltes, ses violences, il a découvert les clés simples, bien connues autrefois et bien méconnues aujourd'hui, du chemin qui conduit à la paix, à la joie, à l'amour. Sans aucune prétention de sa part à un quelconque titre de sage, de libéré ou d'éveillé, le changement qui s'est opéré en lui a peu attiré les demandes de nombreuses personnes convaincue qu'elle pouvait trouver auprès d'André Rochette l'aide qu'elle souhaitait. Tant et si bien qu'André, après une première existence faite de travaux physiquement durs et où le repos n'avait guère tenu de place, a abandonné son activité professionnelle et a consacré ses journées à recevoir, accueillir, écouter, répondre et aider à se comprendre plus profondément ceux qui en sentaient la nécessité. Il a montré ses compétences en ce qui concerne une certaine approche de l'inconscient individuel que, auprès de Swami Prajnampad, nous appelions « lying », ce mot signifiant tout simplement « être allongé » au lieu d'être assis. Mais la soif proprement spirituelle qui, plus profondément que ses contradictions, animait le jeune André, n'a fait que croître au fil des années. Et c'est d'elle que témoigne le livre que je suis heureux de préfacer. André n'est pas un écrivain, mais parce qu'il a l'expérience de l'existence au cœur des joies ou des peines, qui sont celles de la plupart de nos concitoyens, et parce que c'est son cœur qui s'exprime, il sait parler, trouver les mots qui touchent, qui inspirent, qui redonnent l'espérance. Il a répondu aux questions par lesquelles Gilles Farcé l'a habilement obligé à partager avec nous les convictions qui le font vivre. Chaque lecteur sentira pour lui-même si ses paroles sont des paroles de sagesse. Mais ce dont je peux témoigner, c'est qu'elles sont celles d'un disciple inlassablement engagé sur la voie. La voie vers ce qui transcende et illumine aussi bien les difficultés quotidiennes que les grandes épreuves. Si c'est à présent un lieu commun de dire que le monde actuel est en quête de sens, c'est bien parce que ce sens a été perdu. À sa façon, dans sa ligne, cet ouvrage témoigne pour la lumière qui brille dans les ténèbres, même si, ou plutôt parce que ce n'est pas l'ouvrage d'un intellectuel, ni celui d'un philosophe patenté, ni non plus d'un théologien officiel, mais simplement celui d'un homme de courage et de cœur, il se peut bien que ce livre parle très fort et très profondément à d'autres cœurs.